Première fois, elle la soumet à un questionnaire type et au fur et à mesure de la consultation, les rôles s'inversent en quelque sorte. On retrouve ensuite Ohana avec son frère dans la cuisine. Celui-ci s'affaire à la préparation de son anniversaire avec, très présent, le spectre du Covid et l'addiction maladive au téléphone portable. Dans ce deuxième chapitre, l'impossibilité de communiquer et l'aliénation vont de pair. Les gens se parlent, mais visiblement ne s'écoutent pas, sauf à travers le portable. Dans les quatre histoires, on retrouve un des personnages des autres séquences. C'est le mari d'Ohana qui fait le lien avec la troisième histoire. Craignant d'avoir été contaminé par un virus, il fait des tests sur lui-même dans la salle de repos de l'hôpital, tout en écoutant un collègue lui racontant un épisode amoureux où se mêlent le sexe et la mafia. Le dernier épisode de cette suite de tableaux se passe à l'extérieur. Un inspecteur de police spécialiste du grand banditisme doit recueillir le récit d'une prostituée sur la vente d'enfants pour la prostitution et le trafic d'organes. Chaque séquence est entrecoupée par des mouvements de caméra, gros plans, sur des herbes où sont abandonnés des déchets. Beaucoup de plans fixes, sauf dans la cuisine, où toute l'excitation des conversations s'accompagne d'une caméra qui virevolte d'un personnage à l'autre. Et dans la dernière histoire, tournée en extérieur, où l'on suit l'inspecteur et les personnes qui se rendent à une messe funèbre. Il y a quelques années, raconte le réalisateur, j'ai animé des ateliers d'acteurs au cours desquels j'ai tenté de restituer cette quête de l'indicible permise par la réalisation d'un film au travers de l'acte de confession. Les leçons tirées de ce travail m'ont permis de construire MMXX. S'il est vrai que le cinéaste est, dans une certaine mesure, un témoin de son temps, alors je considère MMXX, ces quatre entrées d'un possible journal intime, comme ma propre confession inachevée. MMXX de Christy Piyu, en salle le 1er novembre. À l'intérieur, un film de Vassili Katsoupis. Nemo, un cambrioleur de haut vol, c'est le cas de le dire, spécialisé dans les œuvres d'art, parvient à entrer par les airs dans un appartement truffé d'objets d'art, toutes tendances et époques confondues. Il est en particulier à la recherche du très convoité autoportrait de Egon Schiele. Il n'a qu'un temps limité pour accomplir le rapt et sortir de cette forteresse. Mais bien que le programme soit suivi à la lettre, le code pour sortir ne fonctionne pas et le voilà piégé dans le luxueux penthouse new-yorkais. De plus, son complice ne répond plus, donc son espoir de voir quelqu'un venir le secourir, s'amenuisant rapidement, ce qui n'était au départ qu'un fâcheux contretemps, tourne bientôt au cauchemar. Le loft se muant en prison dorée et la collection qu'il s'apprêtait à dérober lui tenant lieu d'unique compagnonnage. L'idée du scénario germe dans l'esprit de Vassilis Katsoupis lorsqu'il est hébergé chez un ami dans un immense appartement de Manhattan, empli d'objets et de tableaux de grand prix, ce qui l'amène à se questionner sur la pertinence des objets d'art et de design comme symbole de la vie contemporaine, en contradiction avec leur utilité dans la vie de tous les jours. En effet, on peut se demander si nos besoins premiers n'étaient pas assouvis, l'art aurait-il autant d'importance ? Que signifie l'art sorti de son contexte ? Peut-être n'est-ce qu'un symbole, une ombre de la vraie vie à laquelle on choisit de donner de la valeur sur la base de notre perception sophistiquée. Sommes-nous capables de sortir du carcan de la perception altérée pour voir une vérité objective ? La situation vécue par Nemo va le placer peu à peu dans ce type de réflexion. La prison luxueuse le ramène, en effet, à des besoins primaires et vitaux qu'il ne peut assouvir, tels que l'eau et la nourriture. Dans cet antre, qui regorge de richesses, les éléments les plus élémentaires font défaut, car la maison est programmée et sous contrôle. Alors, quand la température s'emballe en devenant torride ou bien glaciale, Nemo est impuissant et proche de basculer dans une irréalité dangereuse. Alors, il crée, il invente et imagine des moyens de s'échapper. Il transforme des œuvres d'art entasse des sculptures pour atteindre une verrière et finalement fabrique ses propres œuvres. Deux personnages dans ce premier long métrage, le voleur, interprété, ou plutôt vécu, par Willem Dafoe, et cette immense maison sophistiquée avec ses caméras de sécurité qui donne à Nemo l'impression qu'il est entouré d'humains, mais sans pouvoir les atteindre. Progressivement, la maison se dégrade parallèlement à son hôte et prisonnier. Le film est un huis clos inquiétant à la manière du film de Stanley Kubrick avec l'ordinateur omniprésent de 2001 Odyssée de l'espace. À l'intérieur de Vassilis Katsoupis, en salle, le 1er novembre. La semaine prochaine, Yalla Gaza de Roland Murier, c'est un entretien avec le réalisateur, Pierre Feuille Pistolet de Massiek Amela, Simple comme Sylvain de Monia Chokri, Goodbye Julia de Mohamed Kordofani, enfin Par la fenêtre ou par la porte de Jean-Pierre Bloch. Très très bonne semaine et surtout, comme d'habitude, tenez bon.
L'ami Bob, encore lui, vient de se marier. Ah, tout irait bien si ce n'est que cet individu ne veut manger que des omelettes. Le matin, chérie, fais-moi une omelette. Le midi, je veux une omelette. Le soir, j'ai envie d'une omelette. La nuit, lève-toi ma poule, prépare-moi une omelette. Ève, son accorte épouse, patiente jusque-là, finit par craquer et lui lança.
J'en ai marre de tes omelettes. Va dormir dans un poulailler.
Bob, médusé, s'interrogea. Ève rejette le mot omelette ? Je rêve. Ève rejette le mot omelette ? Je rêve.
Et voilà, ouverture comme à l'accoutumée avec un palindrome de Gérard Durand, le gérant du Rare sur Radio Libertaire. Vous l'avez peut-être constaté, cette nuit on va changer d'heure, alors passage à l'heure d'hiver. Je ne sais plus si ça va faire une heure de plus ou une heure de moins. Une heure de plus pour que des humains se massacrent, une heure de moins pour que d'autres humains massacrent les humains précédents. Où va-t-on ? J'en sais rien. Radio Libertaire 89,4 MHz, dans tous les cas quand même, ce sont les civils qui trinquent et je cherche la notion de responsabilité civile dans les associations. l'assurance, ça existe dans notre monde. En quoi un civil est-il responsable du gouvernement d'extrême droite de son pays? En quoi un civil est-il responsable des fous d'odieux présents dans ses sous-sols? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont les civils qui trinquent. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits... Je me souviens que Marie-Claire m'avait dit « Donne ta place dans le métro aux vieilles femmes de 50 ans et dis-toi que ça pourrait être ta mère, justement. » Je refuse de me souvenir que cette semaine, une jeune femme de 50 ans m'a gentiment cédé sa place dans le métro. Je me souviens que Patrice a économisé pour s'acheter un écran télé grand format. Mais c'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec des morts et catastrophes, placardés sur tout le mur de sa salle à manger, à Cyril Hanouna ou Pascal Praud à sa table plus grand que nature, à un déferlement de scènes de violence, d'inondations, se vidant sur son canapé. Quand son écran est tombé en panne, Patrice n'a pas cherché à le faire réparer. Je me souviens de Roger Abi, d'Anis Sonier Seyté, de Jean-Michel Blanquer, de Pape Diaye, de Jack Lang, de Luc Ferry, de Gabriel Attal, d'Émile Combes, le petit père Combes, de Louis Barthou, de Gabriel Gusteau, là, ceux-là, c'est juste parce que je connaissais des lycées portant leur nom, d'Édouard Herriot, d'André Bouloche, d'Alfred de Falou, et sa loi moyennement laïque, de Camille Chautan, de Jean Zé, de François Bayrou, de Jean-Pierre Chevènement, de René Monory, d'André Savary, ah, le protocole Ernu Savary, de Gilles de Robien, de Lionel Jospin, de Claude Allègre et du Mammouth à dégraisser, de Luc Châtel, de Nadjad Vallaud-Belkacem, de Benoît Hamon, de Xavier Darcos, de François Fillon, de Joseph Fontanet et d'Olivier Guichard. Vous avez une heure pour trouver le ministre de l'Éducation nationale dans cette liste qui n'a pas cherché à faire une réforme portant son nom. Je me souviens des caleçons molletonnés, je me souviens de « On n'est pas des sauvages ». Je me souviens de Roland Dumas, de Christine de Viejoncourt et des frégates de Taïwan, sans oublier Eva Joly et Laurence Wisniewski, plus les chaussures Berluti. Je me souviens que pendant plusieurs mois, partant travailler et passant rue Béranger, je voyais un camion de CRS devant les locaux de Libération, car le dernier étage de l'immeuble abritait la rédaction en exil de Charlie Hebdo. Je me souviens que j'avais accepté, un dimanche après-midi, l'invitation de Michel, jeune divorcé de 7 ans mon aîné. J'y étais allé avec une idée derrière la tête et quelques préservatifs dans mes poches de jean. J'avais passé l'après-midi avec une petite Marianne de 3 ans sur les épaules, dans les jardins Albert Kahn, et puis on avait confectionné des gâteaux immangeables et j'étais reparti fourbu. Le soir, j'avais retrouvé au fond de ma poche un bonbon au milieu de mes préservatifs non utilisés. J'étais heureux. Je me souviens de Jean-Antoine Coste, de Georges Humbert, d'Étienne Pally, de Louis Thévenot, des noms attrapés au hasard du long mur des victimes de la guerre de 1914 le long du Père Lachaise. Je me souviens que Théodore Monod avait décliné l'invitation de François Mitterrand à une fête du 14 juillet. Monsieur le Président, je tiens à m'excuser de ne pouvoir assister à la réception du 14 juillet à laquelle vous avez bien voulu m'inviter. Je continue à nourrir le vivant espoir que le jour viendra où la fête nationale ne sera plus seulement militaire et verra défiler aussi les bûcherons, les cheminots, les infirmières, les instituteurs. Dans l'attente de ces temps nouveaux, où de plus le refrain de notre hymne national ne sera plus sanguinaire et raciste, veuillez agréer, monsieur, etc.
Je sais, là-bas tes sœurs, tes frères, sur un petit bout de terre, où il n'y a pas eu de silence depuis tant d'années. Là-bas mes sœurs, mes frères, sur un petit bout de terre, il y a comme une ressemblance, et pourtant tu... Ici, chez ses amis de France, on a montré du zèle, on a fait la vaisselle sans gaz. assez d'assiettes. Tu m'invites à la danse. Le vin donne des ailes. La terre est un peu molle. On s'envole. Fais-moi rire comme tu sais. Là-bas tes soeurs, tes frères, là-bas mes soeurs, mes frères, sur un petit bout de terre, y a comme une ressemblance, y a comme une ressemblance.
Et encore une fois, en ouverture de Dessous de scène, cette chanson de Daniel Messia, il y a comme une ressemblance du Morey au fusil pris pour cible et l'inverse est aussi possible. Radio Libertaire 89,4 MHz, je vous disais tout à l'heure que je me souvenais des caleçons molletonnés et de On n'est pas des sauvages, et bien vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Evelyne, je te laisse présenter le sommaire et le long monsieur, le grand monsieur de l'émission d'aujourd'hui.
Ah ben donc bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Ben aujourd'hui on a quand même un invité de prestige. Hein,
c'est gentil.
Ben oui, mais non, mais je
suis gentil.
Je dis ce que je pense hein, quand même hein, parce que donc aujourd'hui on a un comédien humoriste dans les studios de Radio Libertaire et c'est Popek. Bonjour, monsieur Popek.
Bonjour. Ben, je pense que ça sera sûrement une des dernières émissions que je ferai dans ma carrière, parce qu'il y a un moment donné où il faut dire rideau.
Oh, ben, c'est pas sûr, hein. On sait jamais.
Il
hein.
y a du monde, alors ça fait gagner de l'argent aux producteurs, pas à moi, mais aux producteurs. Moi, du moment que je suis sur scène, je suis un homme heureux. C'est ma respiration, c'est mon oxygène. Bon. Mais je suis heureux aussi sur scène. Mais malheureusement, j'ai dans la tête un gars, un jeune homme, un garçon. Et dès que je me mets à courir, je suis essoufflé. Alors il y a quelque chose qui ne va plus. Je me dis, je suis né trop tôt, merde. Je vais sur 89 ans, ça doit être ça. Mais dans ma tête, je n'ai pas 89 ans. J'ai 10 ans, comme disait Souchon.
Mais peut-être que toutes les personnes qu'on a été, c'est-à-dire même de l'âge de bébé jusqu'à l'âge de 88 ou je sais pas, c'est une échelle.
On les
a en soi, on a toujours l'enfant en soi, je crois.
Oui, mais il y a une chose qui vous rattrape, c'est que... Il y a un moment donné où, c'est affreux à dire, vous rentrez dans le cimetière de tous ceux que vous avez connus.
Oui, c'est vrai.
Et il y a de moins en moins de témoins de votre carrière, de votre enfance. Et les témoins qui restent, des fois, je ne dirai pas les noms, mais je veux dire que je ne les apprécie pas tellement. Parce que c'est du passé avec lequel je me suis séparé il y a plus de 50 ans. Donc, et puis voilà, quoi. Donc, vous savez que quand on se sépare de quelqu'un, ça peut être de toujours on reste des bons amis, mais ça peut être la haine aussi.
Oui.
Chez moi, c'est pas la haine, c'est plus la haine, mais bon, disons que c'est un peu de ça. Il y a tellement de contradictions chez un artiste, chez un comédien. Je suis très heureux d'être là. C'est un miracle que je sois encore ici. C'est parce que finalement, j'ai pas fait trop de conneries.
Non. Alors, on était dans le taxi et on a papoté hein.
Surtout de ceux qu'on aimait quoi.
Ouais, on a parlé entre autres de Georges Brassens
en particulier.
Ouais, parce que c'est quelqu'un que vous auriez aimé rencontrer.
Ah oui, 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 oui. J'ai eu l'occasion de le connaître, bien sûr, mais il y avait tellement de monde autour de lui et la personne qui voulait m'y présenter. J'étais assez introverti à l'époque. Vous savez, quand on n'est pas connu, mal connu. Maintenant, c'est, dans le métier, tout le monde me connaît. Alors, c'est facile. On est à tu et à toi avec tout le monde. On est rentré dans la famille.
Oui.
Mais ça n'a pas été ça pendant près de, pour moi, pendant près de 30 ou 40 ans, j'en sais rien. Et puis, à partir du moment où j'ai été connu, j'ai été isolé parce que j'ai été en tournée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si vous voulez, je ne touchais plus terre. J'étais en déplacement tout le temps. J'ai vécu dans le monde entier francophone.
Ouais. Ah bah oui. Donc vous avez voyagé en Europe.
Oui, je suis allé même jusqu'à Québec. J'ai fait des grands tours à Québec. Je suis resté de trois à six mois. C'est Roson qui me produisait, qui a créé Juste pour rire et qui a redonné à Charles Trenet le talent que Charles Trenet a toujours eu, mais qu'il avait été un peu évincé dans les années 80, si je crois. Et c'est Roson qui l'a relancé sur Paris.
Ah, oui, Roson, oui, effectivement. Mais, en fait, alors, moi, je vous avez écrit plusieurs livres, de mémoire.
Oui, oui.
Et j'en ai...
Mais c'est des redites, surtout.
Oui.
Ce que vous avez, celui-là, c'est celui qui aurait été le plus intéressant. Celui qui s'est le plus vendu, qui est passé en poche, c'était le premier qui s'appelait « Je veux bien qu'on rie, mais pas qu'on se moque ».
Oui, celui-là, je l'ai lu dans l'intégralité.
Parce que je ne savais pas écrire. Et on m'a dit, c'est pour ça que tu as plu, parce que tu as parlé avec des mots justes. Il n'y avait pas de trucage d'écrivain, quoi.
Justement, j'ai trouvé que, je ne sais pas, on avait l'impression que ça coulait de source.
Oui, ça coulait de source parce qu'il y avait des gens plus intelligents que moi qui ont su me faire parler. Et que celle que je considérais comme ma mère adoptive, qui était directrice du dernier foyer de jeunes travailleurs dans lequel j'étais, elle m'a dit, écris avec des mots simples, écris avec tes mots, et surtout au singulier. Ne fais pas de grammaire ou des trucs comme ça. Je risque pas de faire de la grammaire, je connais pas la grammaire. Alors.
Ouais, mais c'est bien écrit quand même.
Oui, parce que il n'y avait pas de trucage, j'avais des mots justes que par la suite, quand j'ai écrit des livres, j'ai su comment il fallait un peu truquer, quoi. Un peu. J'ai pris les défauts Et pareil pour jouer. Pour jouer la comédie. Tout ce que je disais, c'était des mots que je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Parce que j'ai dit des mots avec une absurdité, avec une telle autorité, des mots simples, avec la tranquillité d'un imbécile. Pourquoi ? Parce que j'étais un imbécile.
Oui.
Tandis qu'aujourd'hui, je ne suis plus un imbécile, je me suis un peu cultivé. Et quand vous vous êtes cultivé, vous réfléchissez. Vous dites non, je ne peux pas dire ça. Eh bien, justement, il faut dire ce qu'on a à dire quand on veut amuser le monde, pas réfléchir.
Bah, oui, c'est sûr. Hein. Même quand on est écrivain, il faut commencer par ce. Enfin, ça m'arrive d'écrire. Je pense que c'est bien de se laisser aller. Après, on va contrôler. Mais le premier jet n'est pas forcément le plus mauvais.
Non, bien sûr.
Ouais,
même pas souvent le meilleur.
Oui, c'est possible.
C'est
parce que c'est, en fait, les mots dépassent.
Je crois que François Sagan, son premier livre, pour moi, c'était le meilleur.
Bonjour Tristesse.
Oui.
Et d'ailleurs, alors donc, moi, je le recommande, ce livre. Hein. Comment c'est de
qui je veux bien qu'on rit, mais pas qu'on se moque. On le trouve en poche, parce que quand un livre a fait du succès, il passe en poche.
Et franchement, je le recommande parce que moi, je l'ai lu de bout en bout.
Ouais.
Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment tout votre parcours.
C'est ce que m'a dit, vous savez, il y a un grand compositeur qui s'appelait Eddy Marnay.
Oui.
Et Eddy Marnay m'a dit un jour, j'ai lu ton livre dans l'avion, dans New York. Arrivé à New York, je l'avais terminé.
Ouais.
C'est formidable, je l'ai lu d'une traite. Et c'est vrai que... Mais avant, j'avais lu, j'avais écrit Popek raconte, parce que je passais dans une émission qui passait... Il y avait juste trois chaînes, première, deuxième, troisième. Ouais. Il y avait une émission qui s'appelait Eh bien, raconte, sur la Une, un quart d'heure avant le journal, vous vous rendez compte? Et il y avait une équipe d'humoristes qui passait là tous les soirs, et chacun racontait une histoire. Et le réalisateur, Georges Folgoas, il est venu me voir au Café Théâtre, et il m'a dit textuellement... J'ai failli me faire virer pour Coluche.
Ouais.
Et je ne tiens pas à me refaire virer une deuxième fois à cause de vous, parce que ce que vous faites ne doit pas plaire à tout le monde. Alors il a choisi les histoires qu'il voulait que je raconte.
Ah oui, d'accord.
Et ça a fait un succès fou.
Ouais. Effectivement, oui. Alors, donc, vous avez failli être victime... Ah oui, vous m'avez raconté que...
Donc,
certains cabarets ne voulaient pas de vous parce que vous aviez choqué...
Ah non, non, le cabaret, je vais vous dire, c'est bien simple, au départ, je ne serais jamais passé dans un cabaret dit de la rive droite.
Ouais.
Donc, le cabaret qui acceptait des nouveautés, c'est original, c'était L'Écluse.
L'Écluse.
C'était Barbara.
Barbara,
Marie-Paul Bell, des gens comme ça. Mmh. Rive droite, il n'était pas question d'y aller. Par contre, l'Olympia, oui... Il m'a dit, Bruno Cocatrix, tu ne passeras jamais à l'Olympia parce que tu as choqué les Juifs de Deauville.
et tout ça parce que vous aviez l'accent yiddish.
Oui,
hein,
oui.
Voilà.
Et or, j'ai fait l'Olympia 5 fois, 3 fois 15 jours, 1 fois 1 mois. Et devant ma loge, il y a toujours le portrait de Cocatrix. Et chaque fois que je passais dans ma loge, je dis, bah, tu vois, tu l'as dans le qui parce que je suis quand même à l'Olympia.
Ah bah oui. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr.
C'est merveilleux, si vous voulez. Je n'étais pas parti pour faire une carrière avec le personnage de Popek, ça c'est sûr. Sans le personnage de Popek, je ne serais rien du tout.
Mais là, franchement, je trouve que vous exagérez parce que... d'ailleurs, il y a un rappel au moment lors de votre spectacle...
Sur Rabbi Jacob
et sur le pianiste aussi. Franchement, on voit bien que vous êtes un grand comédien.
Je vais vous dire une chose. Quand j'étais au cours Simon, j'ai eu le prix Marcel Achard, le premier prix. Et la première fois qu'il m'a vu dans un sketch, c'était dans une émission qui s'appelait, c'était Raoul Sangla, qui faisait des émissions très tard, vers 11h, où il faisait passer des gens totalement inconnus. Comme Higelin, qui n'était pas connu du tout, comme ça, qui commençait à chanter de ce côté-là. Higelin était comédien. Et il m'a vu à la télé dans un sketch. Il m'a téléphoné, René Simon, et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce rastaquaire que tu nous as fait, là?
Ah oui, évidemment, parce que lui, c'était le classique.
Je venais de jouer une pièce d'Arthur Miller.
Ah oui, évidemment. Et puis, vous avez joué Dostoïevski.
Simone de Beauvoir, Sartre, Bertolt Brecht, surtout.
Oui.
Quand il a eu son Valémati. Bien sûr, je n'étais pas fait pour faire Popek.
Molière aussi, vous avez joué.
Molière aussi.
Molière.
Ah bah Molière, j'ai joué l'avare de Molière dans toute la France. On est même allé à l'île de la Réunion.
Arpagon, vous jouiez Arpagon.
Oui.
Vous deviez bien dans Arpagon, très bien.
J'ai eu des très belles critiques.
Ouais.
Et c'est Jean-Luc Moreau, un grand metteur en scène, qui m'a fait la mise en scène. Et d'ailleurs, quand je travaillais avec Bouvard, sous le pseudonyme de Jean Herbert, donc pas Popek du tout. J'avais dit à Bouvard, on m'a demandé pour jouer l'avare. Il m'a dit, oh là 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 là, vous avez bien le temps de jouer l'avare. Laissez tomber ça. Laissez tomber ça. Parce que je le servais, ça lui servait. C'était dans une émission qui s'appelait 10 de Der. Et je faisais la caméra invisible.
Ah ouais.
C'est-à-dire, mon travail, c'était de foutre la merde. D'engueuler les gens. Et je suis devenu très désagréable à cause de ça. Mais ils adoraient ça. J'ai été engagé. J'ai honte aujourd'hui, je l'ai dit chez Ruquier, à côté de Mylène Farmer, moi qui adore Mylène Farmer, la pauvre, elle m'a regardé du... Faut voir ce que, quand j'ai été filmé, ce que je lui disais, mais c'est pas croyable. Ben, j'étais engagé dans des émissions pour foutre le bordel.
Ah oui, d'accord.
Et ils voulaient tous faire du Bouvard, les gens qui m'engageaient.
Ouais.
Mais ils se trompaient, il n'y a qu'un Bouvard.
Oui, oui, oui.
Il y a, comme il n'y a qu'un De Funès, il n'y a pas de De Funès.
Oui, ouais, effectivement. Ouais.
Donc, je me rendais désagréable. Un jour, j'ai compris ça, donc j'ai dit à Bouvard, j'arrête.
Ah ouais.
Je ne veux plus faire ça.
Eh oui.
C'est d'accord. Pas mon truc.
Et alors, vous m'avez dit, Popek, il n'est pas arrivé comme ça.
Non.
Mais c'est assez extraordinaire, là, comment il a surgi quand même.
Oui. C'est-à-dire que je joue donc un valet dans la pièce qui a un énorme succès, qui est de Dostoïevski, L'Idiot.
L'Idiot, oui.
Rôle principal, Charles Denner,
ouais.
L'homme qui aimait les femmes, hein. Catherine Sellers, qui avait été une des maîtresses de Camus.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Une formidable comédienne âgée qui s'appelait Valentine Tessier,
ouais.
Qui avait été la femme de Jules Berry, je crois.
Ouais.
Et qui, un jour, il avait mis un mot sur sa table de nuit, en foutant le camp, j'ai assez ri. Alors, bon, ce soir-là, comme on fait là, on fête la centième, on décide de faire une soirée où chacun va faire un petit truc devant le tout Paris. Il y avait Michel Simon, Claude Berry qui venait tourner Le Vieil Homme et l'Enfant. Et Popek, Jean Herbert, tu veux pas nous faire un petit truc? Je veux bien, je vais imiter mon papa, je veux bien. Et ça a été un raz-de-marée, c'est quelque chose. C'est né là.
Ouais.
C'est né là. On était en 1900, que je dise pas de bêtises. 65, je crois.
Et c'était au théâtre...
66.
Théâtre de l'Atelier.
De l'Atelier.
Ah ouais. J'y étais hier, mon théâtre de l'Atelier. Ah ouais.
66.
Ah ouais, ah ouais, mais c'est un théâtre...
J'étais assistant de Barsac.
Ah oui.
J'étais assistant pour la mise en place des artistes, quoi. Puisque le premier assistant est devenu un grand réalisateur, c'était Gérard Vergès. Il était parti, donc il m'a demandé... vous savez, vous servir des machines? Non, je ne sais rien faire. Vous allez me servir de ça? Je dis, non, je ne veux pas me servir de ça. Je ne veux pas être technicien, moi, je suis comédien. Alors, sur mon contrat, c'était marqué que je devais rendre des services à la technique. Pour le même cachet de 35 francs. Et puis, il me dit un jour, écoutez, je ne vais pas engager un pianiste exprès pour faire danser tout le monde dans la troupe. Il y avait les grands comédiens. À un moment, L'Idiot, c'était magnifique. Il y a 25 comédiens, 20 comédiens en scène. Vous jouez du piano? Je dis, je joue juste la marche dure. Je joue que... Bom, 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 les valses, ouais, c'est bien ça. Alors je me mets à valser. Tout le monde me regardait de travers dans la pièce parce que je jouais faux. Mais ça plaisait beaucoup à Barsac parce que c'était ça. Quoi. Alors... 25 ans ou 30 ans plus tard, je rencontre une comédienne qui jouait un des petits rôles avec moi. Elle me dit, dis-moi, quand tu as quitté L'Idiot pour aller avec Prévert jouer ce que tu as joué aussi à la télé, il te payait combien pour faire le piano en plus? J'avais 5 euros en plus de mon cachet. Ah la vache, il m'a dit que tu avais 3 euros. Parce que c'est elle qui m'avait remplacé au piano.
Ah d'accord. Ah, d'accord. Ouais. Bah, c'est des bons souvenirs.
C'est une belle histoire. C'est des beaux souvenirs. Quoi. Quand on vieillit, on a la chance d'avoir des beaux souvenirs. Quoi.
Bah, oui.
Il y a tellement de jeunes talents qui meurent jeunes. Quand je vois autour de moi, c'est triste. Quoi. Bon, c'est la chance. Et à la fois, c'est un beau métier d'être acteur. Moi, j'aurais préféré être un acteur qui puisse jouer. Pas mal de rôles, une panoplie, plutôt que de m'enfoncer comme je me suis enfoncé dans le personnage. Je suis comme un chat qui s'est mordu la queue, qui tourne en rond. Mais honnêtement, c'est une prison dorée par rapport à d'autres artistes.
Oui, oui, honnêtement, oui. En même temps, vous l'aimez, Popek, quand même.
Non, au début, je le détestais. Ouais.
Ah ouais,
et la meilleure des preuves, c'est que mes régisseurs, parce que j'avais malheureusement mauvais caractère, je les engueulais sur scène quand quelque chose.
Vous étiez déjà Popek.
Et ils me disaient, quand tu nous engueules, sois gentil, ne perds pas l'accent. Parce que quand tu perds l'accent, tu deviens méchant.
D'accord. Non, mais c'est vrai, j'imagine, ouais. Oui. Ouais. Ça doit être ça. Hein. Ouais. Avec l'accent, tout de suite, ça donne... c'est quand même un style.
Un jour, je devais faire une émission avec Drucker. Alors, je prendrais bien un verre d'eau. Parce que je devais faire une émission avec Michel Drucker.
Oui.
Et puis, l'émission a été reportée à cause de la mort de... Merci de
mais ça, il ne boit pas. Hein.
De l'eau.
De l'eau.
Accord de la mort de Claude François.
Oui.
Je ne dis pas de bêtises.
En 74, un truc comme
ça. Oui, c'est ça. Merci. Et puis, j'avais un gala que j'ai dû annuler. Ben alors, oui. J'arrive dans le bureau de Françoise Coquet et je lui dis, moi, je vais être payé. Hein, je suis désolé, j'ai agulé un gala pour... Tout le monde me regarde dans le bureau avec colère. Et Françoise Coquet me regarde, elle me dit, redites-moi la même chose avec l'accent. Eh ben moi, j'ai annulé un gala. Et ça a fait rire tout le monde, tout le bureau.
Ah ouais, d'accord. Bah oui, c'est sûr. Et là, vous l'avez eu, votre cachet. Ouais. Ah bah oui, hein, il faut savoir enrober le...
C'était une époque où la télévision payait des cachets. Plus personne ne touche de cachet aujourd'hui.
Ah bon?
Les humoristes, plus personne. Vous êtes l'invité d'honneur. Vous invitez sur le plateau, vous arrivez sur le plateau, il y a 50 invités d'honneur. Et ça fait beaucoup.
Ouais.
Alors, on vous fait l'honneur de vous inviter. Donc, vous n'allez pas en plus demander à être payé. Ils sont marrants, les producteurs. Eux, ils se foutent tout le pognon dans la poche.
Ouais.
Hein, et l'artiste n'est plus payé du tout.
Du tout.
Par contre, si on fait venir un artiste des États-Unis ou d'ailleurs, là, non seulement il est payé, il a le voyage, l'hôtel et tout. Mais le petit Français, il doit jouer pour rien. Et ça leur apprendra, à ces petits jeunes Français, je vous le dis, mes camarades, de vous précipiter à la porte de la télévision partout, quitte à payer, payer pour passer à la télé. Donc vous avez tendu la perche à ce qu'on ne vous paye pas. À ce qu'on ne paye pas. Si on n'a plus d'exigence. Je ne sais pas, ça doit être très dur maintenant pour les jeunes.
Oui. Alors donc, même chez Drucker, on n'est pas payé alors.
Ah bah non. Écoutez, vous arrivez chez Drucker, c'est une promo.
D'accord.
Ils appellent ça de la promo. Avant... je crois que le premier qui a dit ça, j'ose le dire aujourd'hui, c'est Jacques Marouani, qui était le producteur de Patrick Sébastien.
Oui.
Il a dit, je ne vois pas pourquoi je continuerai à donner tant à les artistes à partir du moment où ils vont gratuitement chez Drucker. Pourquoi ? Parce que Drucker, c'était une émission qui était porteuse. Toutes les grandes vedettes tenaient à y aller. Et ils ne demandaient pas à être payés, les grandes vedettes. Parce que passer chez Drucker, c'était vendre des disques, c'était vendre des livres. C'était de la promo. Mais un petit acteur comme moi, comme j'étais à l'époque, quelle promo ? J'avais pas de disque à l'époque, j'avais rien. J'étais au Café Théâtre, c'est tout. Alors, j'étais bien content du cachet que je pouvais avoir. Mais quand ils ont compris ça, ils donnaient plus de cachet. Donc, à partir du moment où un producteur... Vous alliez dans une émission de télévision, vous arriviez dans la loge, il y avait le champagne, il y avait tout. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout.
Ah ouais?
Si, on vous offre un petit encart.
Oui, puis ils empochent quand même pas mal d'argent.
C'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Un jour, j'ai un régisseur qui travaille avec moi au théâtre. J'étais au théâtre, je me rappelle. Et puis je l'ai engueulé parce qu'il y a quelque chose dont j'étais pas content. Et il m'a dit ce qu'il était payé. Alors, je lui ai dit, tu fais tout ce boulot-là pour ce prix-là? Je dis, c'est pas possible, ça. Il devait enlever les écrans parce qu'il y avait du cinéma avant mon spectacle. Je dis, je vais aller voir mon producteur et je vais lui dire que ça peut pas marcher ce que tu gagnes là. Il me dit, je vous en supplie, n'en faites rien. Ils sont 50 à faire la queue pour avoir la place.
Ah ouais, d'accord.
Hein?
Ah ouais. Eh oui, c'est l'exploitation, hein.
Voilà.
Ah ben oui, l'exploitation, elle est partout. Enfin, oui. Effectivement.
Vous avez fait une apparition dans Scène de ménage.
Je vais vous dire une chose, j'ose le dire.
Allez-y.
J'ai été très bien payé dans scène de ménage. Ça, je n'en reviens pas. Et je vais vous dire pourquoi. Le premier jour où je suis arrivé, il y a un des comédiens qui est tombé malade. Donc j'ai passé toute la journée à rien faire. Donc bon, on a décidé de remettre le tournage le lendemain. Eh bien, non seulement on m'a payé mon jour de tournage, mais on m'a payé le jour où ça, je n'avais jamais vu ça. Il faut remonter loin pour voir ça.
Oui, oui.
Donc je suppose que dans cette déménage, ils sont bien payés.
Sans doute, oui, ça fait 10 ans qu'elle dure cette émission.
Parce que j'ai été très bien payé.
Ah, bah tant mieux.
Voilà. C'est la seule émission où j'ai été bien payé.
Bah oui.
Je dois le reconnaître. Puis la scène était très belle. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais c'est les auteurs. Ils m'ont écrit une très belle scène avec ma copine Marion Gamme. Et puis. Voilà. C'était une très belle scène.
D'accord. Parce que scène de ménage, moi, j'en ai vu comme ça en zappant sur la télé.
Oui.
Tout n'est pas.
C'est-à-dire qu'à mon avis, ça a perdu de la saveur que ça avait à l'époque, comme toutes les émissions qui durent. Mais j'ai adoré faire cette scène parce que j'aimais beaucoup Marion Gamme. Marion Gamme m'a donné un sérieux coup de main quand j'ai créé le personnage de Popek.
Oui,
parce que je me suis servi d'elle pour... je passais à l'Olympia et je voulais une partenaire pour faire un sketch avec Popek. Et j'avais décidé d'aller au Cours Simon pour faire mes essais au Cours Simon. Et comme la comédienne que j'avais choisie, Arlette Didier, n'était pas libre, elle était en tournée, c'est Marion Gamme qui est venue me donner la réplique au Cours Simon. C'était très chouette.
Ah, d'accord.
Très chouette. Et donc, on s'est retrouvés à cette occasion.
Scène de ménage.
Scène de ménage.
Ah ouais. Alors, je sais pas, on vient de me passer un petit papier. Une pause avec une surprise.
Ah.
Ben voilà, allons-y.
Ça fait rien, je vais chanter tout seul. Je vais vous chanter la vie de Moïse, mon ami le vieux marchand des calçons moltonnés, qui va de ville en village sur la place des marchés. Près de lui, il y a les bouquinistes, la mercière et les gros bouchers, et la jolie petite pleuriste à l'accent des Méditerranées. Et je vois encore ce baratineur m'apprendre à monter, à démonter, à déballer sa voix comme une écrisse, les bouffandais. Et le cœur approchez, touchez-moi, ça ce n'est pas de la gnognotte. Approchez, choisissez, essayez, c'est l'adopter. C'est quand il fait quoi qu'on se sent bien dans les tissus et que la fibre ne vous piquez pas les quilles, etc., etc. Quoi.
Les femmes, il y a des saletés, il y en a d'autres qui bourrent et chauffent comme un bon verre de Bordeaux. Mais à l'époque, je ne l'avais pas, ça.
Ah oui, mais parce que vous chantez dans le spectacle aussi. Hein?
Ben oui.
Fini de rire.
Mais j'ai commencé à être chanteur dans ma carrière.
Ah
et
oui?
C'est Eddie Marnay qui m'a dit, à part la chanson, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, j'ai fait des sketchs. Tu peux m'en faire un? Je dis, oui, ben, j'ai fait ce que j'ai fait au théâtre de l'Atelier. Monsieur la présidente, tout d'abord, je dois dire, c'est ça que tu dois faire. La chanson, tu deviendras qu'un petit chanteur de cabaret comme il y en a tant. Tandis que dans ce que tu fais là, t'as pas de concurrence.
Ah, voilà. Et c'est vrai, vous n'avez pas tellement de concurrence à l'heure actuelle.
Ben non, parce que quand j'ai tourné le film de Gérard Oury, Rabbi Jacob, il m'a pris uniquement parce qu'il m'a dit tout ce qu'on a essayé force avec l'accent. Alors que toi, tu ne forces pas du tout. On a l'impression que tu es né avec ça.
Eh ouais. Et c'est la voix de votre père, quelque part.
Oui.
Ah ouais.
C'est un golem que j'ai sorti de moi. Voilà.
Ah, voilà.
Ben, c'est vrai, mais les gens ne peuvent pas le comprendre.
Oui, effectivement.
Ouais.
Ouais, ouais.
Moi-même, j'ai du mal à l'assimiler.
Oui, effectivement. Ouais.
C'est un don inné. J'ai l'oreille musicale, ça doit être pour ça.
Oui, oui, vous avez l'oreille musicale.
Oui.
Donc,
si on n'a pas l'oreille musicale, on ne peut pas faire ça. D'ailleurs, les imitateurs, c'est parce qu'ils ont une oreille musicale.
Ah oui, exactement.
Ouais.
Et justement, on parlait de votre père. Il vous a connu comédien, votre père.
Mon père, je vais vous dire, quand il a vu ma photo dans le journal, je venais d'avoir le premier prix chez Simon, il était estomaqué. Il m'a dit textuellement, c'est le titre du livre,
oui.
Je me demande de qui tu tiens cette don-là, ça peut pas être de moi, ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. C'est-à-dire que maman, elle avait 26 ans de moins que mon père. Elle s'était mariée pour être française, parce qu'il était naturalisé français depuis la guerre de 14.
Oui.
Donc c'est la loi de Vichy qui a fait tomber les naturalisations et les mariages
oui.
après 1920-1930. Mais au début, en France, on laissait encore tranquille les Juifs qui avaient été naturalisés avant 1920. Avant 1920. Si la guerre avait perduré et que Hitler ait gagné la guerre, il est certain que tous les Juifs y seraient passés. À l'époque, enfin, ou alors, si à mon avis, non, parce que moi qui étudie l'histoire, tôt ou tard, Hitler aurait été assassiné d'une manière ou d'une autre. Mm. Parce qu'il s'était foutu à dos depuis la tentative de Stauffenberg, qui avait essayé de l'assassiner et qui l'a loupé. Il s'est foutu à dos toute l'armée allemande. Traditionnel. Donc, qui se serait vengé un jour, quoi. Au fur et à mesure de ses défaites militaires. S'il avait continué à gagner, non. Mais avec les défaites militaires, et voilà.
Et oui. Et donc, votre père, donc...
Mon père, donc, je l'ai imité sans le savoir, sans le vouloir. Je pense qu'il aurait été fier. Mais au début, il n'aurait pas été fier du tout. D'ailleurs, ma sœur m'a fait mille reproches. T'as pas honte de faire ça ? Non, non, ma sœur n'était pas contente. Et le jour où on lui a dit, mais tu sais que ton frère, c'est une grande vedette, aujourd'hui, là, elle était fière.
Ah, d'accord.
Voilà. C'est-à-dire que tout change. Comme quand vous avez la notoriété, c'est dans tout pareil. Dans la politique. Moi, j'ai connu... je vais vous faire une confidence. Je crois qu'elle ne m'en voudra pas. J'ai connu le dernier mari de Daniel Evnou, Filiou. Quand il était ministre...
Comment il s'appelait déjà Filiou,
Georges Filiou.
Ah oui, Georges Filiou. Oui,
tant qu'il était ministre, on tournait autour de lui, il y avait tout le monde, il était ministre de la Communication et tout. Moi, je l'ai connu quand il n'était plus ministre du tout.
Mm-hmm.
Il n'était plus du tout... C'est fini, il s'était retiré dans le Luberon. Je pense qu'il a été abandonné de partout, de son parti. Tous les rats ont quitté le navire à ce moment-là.
Ah ouais.
Il était tout seul.
Eh oui.
Je pense que je le mets dans le livre, je ne sais pas si c'est dans celui-là. Le succès a beaucoup de pères. L'échec est orphelin.
Eh oui, effectivement.
Hein, c'est vrai, ça.
Oui, effectivement. Mmh. Mais alors, comment vous avez fait? Parce que quand même, vous avez une longue carrière qui commence... Vous avez même joué, j'ai vu dans le livre, vous avez même été figurant dans un film à l'âge de 3 ans.
Oui, parce que dans l'étage où j'habitais, au 7e étage, parce que les amis gays habitaient toujours au dernier étage, des immeubles.
Une chambre de bonne.
Et il y avait un type qui était là, qui habitait dans une chambre de bonne, qui était chargé de recruter des enfants pour un film de Julien Duvivier, qui est un grand réalisateur. Mmh. Ce qui s'appelait la charrette fantôme. Donc, il devait recruter des enfants, il m'a recruté. Il a demandé à mon père, il a demandé à ma mère. Ma mère, elle a dit, oh là là, le cinéma, mais elle ne voulait pas. Mais mon père, lui, il y a de l'argent à gagner. Donc, il n'était pas fou. Donc, j'ai été dans la charrette fantôme, et j'en garde un souvenir, parce que Il fallait courir devant les gros projecteurs.
Mmh.
Et ça nous foutait une trouille noire à nous, les enfants.
Ouais.
Et c'est ce que cherchait le réalisateur, la charrette de fantôme. Ah
oui, d'accord. Et vous vous en souvenez?
Ah oui, de cette peur m'a foutu la trouille. Mais le film est repassé il y a un ou deux ans à la télé. Mmh. J'ai pris mon appareil et je me suis pris en photo. J'ai attendu mon passage.
Oui.
Quand j'étais gosse,
ouais.
Parce que j'ai des photos quand je suis gosse.
Mm.
Paf, et je me suis pris là, et ma femme m'a dit, bah oui, c'est bien toi. Et Julien Duvivier voulait m'engager dans un film qu'il allait tourner à Nice. Et la guerre a éclaté. Voilà.
Ah oui, ça s'est arrêté là.
Voilà.
Et puis, pendant la guerre, vous êtes allé dans des foyers.
Ouais. Ben, ah. C'est-à-dire que à partir de 1900...
Vous étiez jeune pendant la guerre, vous aviez 7 ans.
J'avais 6 ans.
7-6 ans, oui.
La guerre, la grande. Au mois de juin 1942, mai 1942, le port de l'étoile a été obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, à ce moment-là, il y avait l'œuvre de secours aux enfants qui était clandestine. Donc, ils ont dit qu'il faut planquer les enfants. Mais ils ne pouvaient planquer que les enfants qui n'avaient pas d'accent, qui parlaient, qui étaient nés en France. On ne pouvait pas planquer quelqu'un qui a des... Je voudrais pas à la campagne, ça ne marche pas. Alors, moi, j'avais un accent vraiment parigot.
Oui.
J'étais né dans le 10e, dans le 9e. Dans le 10e, et j'étais vraiment un accent parigot. Donc Lozé est venu me chercher, une personne de Lozé, c'était des jeunes bien souvent, une étudiante, elle est venue me chercher chez mon père au mois de septembre 1942.
Ouais.
Et j'ai été dans une famille de assez pauvres, mais qui touchait. On ne peut pas dire que c'était des justes, parce qu'ils touchaient un salaire chaque mois.
Oui.
Alors, le système, c'était d'envoyer des annonces pour des nourrices,
oui,
pour garder des enfants.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est souvent les pauvres...
Famille d'accueil.
Oui. C'est souvent les pauvres qui se proposaient, qu'ils avaient été déjà des familles nombreuses. Et c'est comme ça que je suis allé dans une famille formidable, d'ailleurs. Famille formidable dans laquelle je suis resté jusqu'en 44, enfin, jusqu'à la libération de Paris.
Oui, et ensuite, alors, au fur et à mesure,
je suis allé chez mon père, et comme j'étais vraiment quelqu'un de... Ouh là là, je tenais pas en place, j'avais des manières de voyou, ça se voyait pas sur ma figure, j'étais d'autant plus dangereux. Et je trafiquais le chewing-gum avec les Américains. je les emmenais vers la place de l'Opéra, je les emmenais là où ils voulaient aller, à Pigalle et tout, et en échange, ils me donnaient du chewing-gum. Et le chewing-gum, là, à l'époque, c'était... Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. Ça valait plus que le chocolat, le chewing-gum américain.
Ah oui ?
Le chewing-gum, c'est... Alors, on se partageait le chewing-gum entre Strasbourg, Saint-Denis et la République. On était une bande. Et puis on faisait le partage et on revendait ça, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ah, vous avez commencé jeune.
Du trafic.
Trafic de chewing-gum.
Ouais.
Voilà. Ouais. Un peu de musique. Oui, d'accord. D'accord. Et alors, je crois que vous aimez bien Jean-Marie Blanche.
Ben, Jean-Marie Blanche, je l'ai connu... Parce qu'on faisait partie de l'Académie Alphonse Allais. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois.
Oui.
Je ne savais pas qu'il était le fils de Francis Blanche, mais je l'ai rencontré là.
Ah, d'accord. Ouais. Plus tard, on passera le petit gros, parce que c'est assez joyeux comme... on le voit sur YouTube. Hein, c'est assez joyeux comme... Et là, encore un peu de musique. Voilà. J'ai quelqu'un qui me met des petits papiers. Comme ça, on peut un petit peu faire la pause et boire un peu d'eau. C'est que...
Eh oui.
Thank you. Allez, voir.
Oh, Magarou Michel.
Nous, bandit, pom pom, capote, capote. Siegel, Alto, cigarette. Danke schön. Alle klar.
Ja klar, alle gleich. Alle gleich. Nur wir Deutschen sind ein bisschen gleicher.
Alle klar. Alle klar. Alle klar. Alle klar. Alle klar. Alle klar. Ingel halt hoch. Ingel halt hoch. Alle klar.
Un extrait du pianiste de Roman Polanski, musique de Wojciech Kilar, et là, la belle séquence, justement, avec la participation de Popek.
Ah oui, 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 ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, dans le spectacle, alors, il faut quand même en parler, c'est Fini de rire en ferme, c'est au théâtre de Passy.
Oui, à 17h.
À 17h. Alors, l'adresse du théâtre de Passy, tu l'as ?
C'est 95
rue de Passy, oui.
Voilà, c'est à 17h, ça dure un peu plus d'une heure. Ouais. Et c'est tous les dimanches.
Ouais, ça dure plus d'une heure quinze, oui.
Une heure quinze, oui, voilà, voilà, voilà.
C'est très drôle.
Ils en veulent pour leur argent.
Oui, oui. C'est vrai que. Faut reconnaître, oui. C'est vrai que. Alors là, ce que j'apprécie, c'est pas des rires enregistrés. Parce que souvent, quand on voit la télévision, ils mettent des rires enregistrés. Là, et là, c'est des vrais rires.
Je ne doute pas,
c'est spontané, là.
J'ai horreur de complimenter, ni de faire des compliments.
Oui.
Mais je dois dire que vous m'avez fait un article. Là, j'étais estomaqué dans le journal Le Monde, à l'époque, qui est un des meilleurs commentaires que j'ai eu dans ma carrière, avec celui de Dominique Jamais.
Oui.
Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas cherché à utiliser des mots que j'emploie, mais vous avez utilisé votre propre mécanisme, votre propre... ce que vous avez ressenti, vous.
Oui, oui, oui.
Et malheureusement, les journalistes, dans l'ensemble, ne font plus ça. Ils se contentent de reprendre ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit, et basta.
Oui, bien sûr. Mais peut-être parce que ça demande un peu plus de temps pour...
Plus de temps. Je vais vous dire, il a ses défauts, il a ses qualités, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais un des journalistes qui a su faire ça aussi, c'est Ruquier. Quand il m'a invité à son émission, il avait utilisé le dossier, il avait utilisé Merde comme mon avocat.
Ah oui, oui, d'accord.
Il savait de quoi il parlait. C'était pas des papiers qu'on lui a apportés au dernier moment.
Oui.
Et qui n'a pas lui.
Non,
il avait bien étudié. Ça, c'est du vrai métier de journaliste,
oui.
de critique.
Ah oui, non, mais c'est sûr, oui.
Voilà.
Effectivement.
Donc c'est la raison pour laquelle, immédiatement, j'ai pris votre article comme une référence.
Oui.
Et comme je suis un humoriste, j'en parle sur scène, en mettant en boîte, évidemment.
Oui, c'est très drôle. Mais je ne m'étais même pas
connu. Mais c'est pas vous que je mets en boîte, c'est le journal Le Monde.
Oui, d'accord.
J'ai dit, c'est un journal pour intellectuels. C'est un journal pour intellectuels. Et puis, comme si quelqu'un m'avait parlé dans la salle et qu'il me dit, c'est un journal de la gauche caviar. Oui, je vous l'accorde, de la gauche caviar, mais dans le caviar, vous avez du phosphore, et le phosphore, ça vous éclaire les idées pour comprendre les articles du Monde qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. C'est pas un journal populaire comme le Parisien. Alors, je vais vous dire les deux premières phrases que j'ai lues là-dedans. Les deux premières phrases, je crois qu'elles sont de vous.
Oui.
Comme un magicien des mots, on ne le voit pas venir. Et c'est là son tour de force. Allez, moi, on ne le voit pas venir. Je ne suis pas un fantôme, quand même. Popek n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire comprendre. C'est aussi une phrase de vous.
Oui.
Mais il n'y a rien à comprendre. Moi, si vous êtes ici pour m'analyser, pour chercher à comprendre, et que deux heures plus tard, vous rigolez chez vous, ça ne m'intéresse plus. Le chanteur, lui, il a ses musiciens pour l'accompagner. Ce sont ses musiciens qui lui donnent le ton. Moi, mes musiciens, c'est vous, par vos rires, par vos serrures, par vos sourires. C'est vous qui me donnez le ton. La seule différence avec les chanteurs, c'est que lui, il paye ses musiciens.
Alors
que moi, je ne vous demande rien.
C'est sûr.
Ça m'a fait rire, franchement.
Oui, oui. Non,
je m'en suis servi.
Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai... Ah, t'es d'accord, Anne.
Vas-y.
Quand même, c'est normal, vous avez, c'est votre métier. Mais ce que j'admire, c'est l'enchaînement de vos blagues.
Parce que parfois, l'enchaînement des blagues, c'est un travail inimaginable.
Ouais.
Vous savez, je l'ai appris avec Prévert, Jacques Prévert, que j'ai eu la chance de connaître. Jacques Prévert, il faisait les collages. Et il me disait, je mets dans les petits pots, puis il me dit, bah, tu fais pareil avec les mots. Tu dis, mais moi, tu as un mot qui te vient là, tu le mets là. Puis un jour, tu fais comme un petit train, et tiens, ce mot-là, il va là, ce mot-là, il va là, ce mot-là, il va là. Et tu fais ton montage comme ça. Et c'est vrai que c'est un... Et Brassens, dans le document que j'ai vu hier sur France 3, il dit la même chose.
Ah oui.
Il dit que pour chercher un mot, toute la nuit, il a trouvé les quatre vers, mais il lui manque un vers. Toute la nuit, il ne les trouve pas. Ouais. Il remet ça le lendemain et il ne change pas tant qu'il n'a pas trouvé le mot. Il cherche, il cherche. Et puis un jour, tout en faisant autre chose, paf, ça vient comme un cheveu sur la soupe, sans qu'il y ait pensé.
Ah oui, d'accord.
Et ben moi, c'est ça un peu.
Ah oui.
Oui, il y a du dynamisme dans...
Ah, encore une pause.
Encore une pause. Il y a du dynamisme dans tout ce que vous dites de sur scène.
Un sketch.
Vous n'êtes vraiment pas fatigué sur scène, hein. C'est impeccable.
Alors, j'avais bien aimé comment vous parodiez la chanson de Grand Bargot.
Dégrafer son corsage.
Oui. Alors, ce qui serait pas mal, mettre en parallèle la vraie chanson et votre parodie.
C'est drôle, parce que hier soir, avec ma femme, on écoutait Brassens.
Oui.
Et c'était précisément la phrase que je parodie. Donc moi, je la chantais, et Anne, ma femme, m'a dit « Tais-toi, je veux écouter Brassens !»
Ah d'accord. Ben, on va écouter Brassens, et on va vous écouter après.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 étaient là, 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 là.
Très bien.
Oui, alors, donc j'ai cherché deux, trois chansons de Brassens où je pouvais accommoder une chute. Mais une chute, qu'est-ce que c'est une chute ? Si ça ne fait pas, si ça fait rire que dans un endroit et pas dans l'autre, ce n'est pas une chute. Donc, ce sont des années, c'est comme des notes de musique.
Oui.
Pour que ça tombe comme des notes de musique, il faut que ça tombe à Bruxelles, à Québec, à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Marseille, au même endroit, au même moment. Et quand on a réussi à faire ça, c'est une victoire. Mais c'est quel travail, quel travail. Et c'est toujours par... ça vient par hasard. Mais on le garde. C'est comme l'histoire de la guitare. La guitare, ma guitare qui est cassée, comme vous avez vu. C'est toute une histoire, cette guitare cassée. Donc, Margot, la chanson de Brassens, donc j'ai trouvé trois chutes sur trois chansons.
Ouais.
Qui colle avec la chanson.
Ah, d'accord, ouais.
Je voulais faire un hommage à Brassens, j'ai voulu faire un hommage aussi à Bourvil, mais j'ai dû l'abandonner parce qu'à Bourvil, ça devenait trop sentimental.
Ah, d'accord. Alors, ça ne va pas avec le côté canaille de Popek.
Non, voilà.
Ouais, d'accord. Et ben, j'aimerais bien l'entendre un peu, cette parodie.
Ben alors, c'est, je vous le fais, hein. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient... Et, ah ouais, je me laisse prendre par Brassens, là. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là. Moi, si j'avais été là, j'aurais pris la place d'Ichard. Je crois que c'est quelque
oui,
chose
c'est
comme ça.
Oui,
c'est quelque chose. C'est mais oui, mais je m'accompagne à la guitare.
Ah ben oui, à la guitare, oui. Brassens, tout à fait, oui.
Sinon, j'ai pas le rythme, là.
Mais bien sûr, oui, oui, voilà. Oui. Mais c'est très drôle, c'est très drôle.
Oui, hein. Et puis l'autre aussi... Il pleuvait fort sur la grande route, elle n'avait pas des parapluies, j'en avais un piqué en douce le matin, mais ma monoprix courant à sa bourse, je lui propose à moitié prix, elle me répond, va te faire foutre, ça m'apprendra d'être gentil. Un petit coin de parapluie, des guiboles comme des radis, elle en avait quelque chose d'étrange. Un petit coin de parapluie, des guiboles comme des radis, je suis tombé sur une travestie. Boum. Et tout ça avec la guitare, quoi.
Oui, oui, oui. Oui.
Et puis la, bah, oui. La première, ça, c'est ma femme, c'est l'histoire avec ma femme, mais je ne me rappelle plus. Mmh. C'est l'histoire de ma femme, de, une jolie fleur dans une pauvre vache, une jolie vache déguisée en fleur. C'est tout à fait le portrait de ma femme et je vous présente de son souffre-douleur. Pom, pom.
Oui, c'est sûr. Oui.
Voilà, alors elle en prend un rayon, la pauvre, alors que sans ma femme, je n'existerais pas. Parce que Ferrat a chanté une chanson comme ça, où la femme est l'avenir de l'homme, pour moi, c'est l'essentiel. Et pourtant, j'en dis que du mal.
Ah bon, d'accord.
Oui, parce que c'est quand même... vous voyez, c'est un peu le Mercier quand elle parle de sa famille.
Oui.
Elle est pire choix alors qu'elle adore sa famille.
Oui, oui. Voilà.
On prend à témoin les gens qu'on connaît bien autour de soi, comme modèle, quoi.
Oui, oui.
Pour,
Mais en fait, c'est une femme... c'était peut-être votre première femme. Vous y disputiez tellement avec votre première femme.
Oui, mais je suis toujours étonné qu'elle ne m'ait pas fait un procès.
Ah bon ?
Parce
ah
qu'elle bon est, elle est toujours bien vivante. Et j'ai toujours, et heureusement, je n'ai jamais cité son nom. J'ai toujours trafiqué le nom, car elle aurait pu me faire un procès. Notamment quand je parle, quand je suis au tribunal.
Ouais.
Parce que les problèmes que j'ai, je les ai eus vraiment. Alors, elle aurait pu me faire un procès pour diffamation ou des trucs comme ça, quoi.
Oui, mais vous la nommez pas ?
Non, jamais.
Non, mais...
si je lui donne un autre
nom. Non, mais on comprend bien quand même que cette femme, c'est une femme... elle va avec Popek, quoi. C'est-à-dire, elle est un peu fictive. Enfin, elle n'est pas fictive, mais
non,
c'est un personnage.
C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mariée avec moi. Elle m'a connu comme postulant comédien. ayant énormément de succès.
Ouais.
Mais les gens qui étaient autour de moi à l'époque ne voulaient pas faire de moi un comédien, mais un commerçant.
Ah, d'accord.
Un vendeur de caleçons molletonnés, si vous voulez.
Oui, oui.
Ça, et elle avait le sens des affaires.
Ah,
donc ça l'intéressait beaucoup parce que elle me voyait évoluer dans un milieu des affaires.
Oui.
Puisque j'étais dans ma vendeur en gros.
Vendeur en gros de caleçons.
De caleçons.
Ah,
et
oui.
Pas seulement de caleçons. Il y a des choses qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui.
Ah
je,
bon
je vais vous donner un exemple. Il y a un petit maillot de corps.
Oui.
Qui pesait un succès monstre, petit maillot de corps de très très bonne qualité.
Ouais.
Il y avait la photo d'un petit noir.
Ouais.
C'était la qualité, si vous voulez, c'était la référence.
Ouais.
Et c'était la marque Petit Négro.
Ah ouais, d'accord.
Vous voyez un peu ?
Oui, oui.
C'était la marque, c'était très prisé.
Ouais.
C'était la marque Petit Négro.
Oui, oui.
Eh bien, il y avait des tas de choses comme ça à l'époque qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui.
Ah oui, donc, ça c'est sûr, oui.
C'est sûr.
C'est certain, oui. Et donc, vous avez divorcé, mais vous lancez...
Donc j'ai divorcé, oui, je suis quand même resté assez longtemps, parce qu'à l'époque, on ne divorçait pas comme ça. Hein.
Ah bon ?
Ouh là là, il fallait avoir des motifs très très graves, très très graves pour divorcer. Vous ne pouviez pas divorcer comme ça.
Oui, parce que vous l'avez épousé, vous étiez jeune, vous aviez 20 ans.
On m'a forcé.
Ah.
C'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. J'étais encore en foyer de jeune travailleur. Elle était enceinte.
Oui.
Alors,
ben voilà,
qui c'est
voilà,
qui l'a mis
voilà.
Enceinte
ah,
c'est
oui.
Lui.
Oui, c'est ça.
Et lui, il doit l'épouser.
Ah oui.
Et comme il était certain que si elle avait été une famille de grands bourgeois, on m'aurait envoyé balader.
Oui.
Mais ce n'était pas le cas.
Ah oui, d'accord.
Le père, il pensait qu'à s'en débarrasser.
Ah oui.
Oui. Puis elle s'est dit. C'est un juif, donc il y aura du pognon derrière, tout
ah,
le temps,
d'accord.
Parce que vous voulez, les stéréotypes, ça continue, les stéréotypes
oui, oui,
tout le temps.
Oui, ça continue, bien sûr.
Tout
ouais.
le temps, bien sûr.
Ouais.
Alors que j'étais en foyer de maison d'enfants, en foyer de jeunes travailleurs.
Oui.
Et donc, c'est vrai qu'on était mariés, on a. Ça a été pour le pire, pour le meilleur et le pire avec elle, mais disons que. C'est grâce à ça, peut-être, que j'ai fait tout mon parcours, au départ.
Mm-hmm.
C'est les incidents de parcours qui vous font...
Oui, oui, ça fait mûrir, hein.
Ça fait, oui, oui. Pour un humoriste, c'est énorme.
Oui, oui.
Mais enfin, je n'étais pas humoriste à l'époque.
Non.
L'humour, je le possédais en moi sans le savoir.
Oui.
Sans le savoir, ce n'était pas de l'humour. Quand vous n'êtes pas connu et que vous faites de l'humour, c'est très mal pris, hein.
Ah oui.
Ouh là là, je peux vous le dire.
Ah bon?
Si vous êtes inconnu et que vous allez balancer une blague à quelqu'un, il ne l'apprécie pas du tout. Hein.
Ah bon, d'accord.
Ah non.
Ouais. Oui. Bah, oui, ouais. Effectivement.
J'en sais quelque chose, parce que j'en ai eu... J'avais toujours une espèce de humour à froid, comme ça, vous voyez. C'était ma manière, par timidité, par... comme j'étais introverti, je lâchais toujours une phrase vexante, sans le savoir.
Oui, oui.
Sans le savoir.
Et alors, vous avez eu des...
Par exemple, on me présentait... Il y a une camarade, la fille de Prévert, qui me présente un réalisateur.
Mmh.
Je te présente... et lui, il tourne la tête à ce moment-là. Et moi, je lui dis, ça ne l'intéresse pas, puis moi non plus. Alors, d'un seul coup, il me regarde comme ça. Parce que peut-être que c'est pas du tout. Peut-être qu'il a tourné la tête parce qu'il avait envie d'éternuer ou quelque chose. Mmh. Ça ne l'intéresse pas, puis moi non plus. Alors, j'avais des répliques comme ça.
Mmh.
Et tout mon succès dans le show est venu de là. Parce que quand j'étais au Café Théâtre, je sortais du théâtre dramatique, où on ne rit pas au début, surtout dans les pièces d'Arthur Miller. Quand je suis en coulisses, j'entends ce qui se dit dans la salle. Et, bah, c'est drôle ou pas drôle? Alors, j'en sais rien. Si on s'emmerde, on s'en va au premier sketch. Hein, pas le sketch. Moi, j'entends tout ça en coulisses.
Ah ouais.
Alors, je rentre sur scène, et j'ai toujours gardé ça. Je me tais.
Mm-hmm.
Bah, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il attend?
Ouais.
Et alors? Il y a un mec dans la salle. Et là, je pars comme une fusée. Qu'est-ce qu'il y a? Milite, vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite. Non, plus vous. Et là, bon, ça part. Et c'est parti comme ça, la colère, elle est partie comme ça. Donc les gens se sont mis à rire.
Mm-hmm.
Mais au début, ils ne riaient pas du tout, parce que moi, je ne riais pas non plus. Puis moi, on voyait bien que je ne faisais pas. Et donc, c'est les incidents de parcours.
Oui, oui, effectivement.
La guitare. J'avais une guitare qu'on m'avait prêtée, je l'avais mis dans ma deux chevaux. puis un coup de chaleur, elle a éclaté.
Ouais.
Alors le soir, je passe à l'écluse, j'arrive avec ma guitare, ma guitare est éclatée, et je leur dis, je vous présente, c'est la dernière fois que je vous le, qu'elle vous dit bonsoir, ma guitare, puis, et je montre, et elle était éventrée, tout le monde se marre.
Ouais.
Je dis, tiens, ça c'est bizarre ça. Le lendemain, je refais la même chose, ça arrive deux fois plus. Ça, c'est quelque chose quand les gens rient pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aux puces, j'ai acheté deux guitares, je les ai éventrées. Et ça continue, 40 ans après, à faire un succès immense. Et le cordon de rideau, ça vient de Coluche.
Ah.
Je suis rentré sur scène, on lançait Coluche dans un cabaret, donc il fallait une première partie avec Renaud qui chantait trois chansons, moi qui disais deux trois sketchs, et puis voilà. Et puis quand je rentre sur scène et qu'on aime bien faire des blagues, ils ont coupé mon cordon de guitare derrière. Comme je râlais, ils savaient que j'étais râleur, ils se sont dit on va se marrer. Alors moi je peux plus tenir ma guitare. Et il y avait un rideau avec un cordon. J'ai attrapé le cordon. J'ai dit, tant pis, ils ont voulu me faire ça, et ben ils vont voir. J'ai fait tomber le rideau, j'ai attaché le cordon à ma guitare.
Ouais.
Et les gens se marraient. Du coup, j'avais un ami qui était passementier, et il m'a fait 3-4 cordons de guitare, qu'il m'a donné.
Des cordons, qui sont très beaux d'ailleurs.
Et voilà, c'est très joli. C'est avec les cordons de guitare. Voilà de quoi sont nées les drôleries. Et alors, du coup, j'ai cassé les guitares pour faire.
Elles sont. C'est devenu
Des incidents sont devenus des gags.
Ah oui, des gags, oui. Et vous l'avez toujours, alors, cette guitare, on l'a vue au spectacle.
C'est un miracle, cette guitare.
Ah oui.
Ah oui, je trouve que c'était un miracle, parce que j'ai jamais besoin de changer les cordes. Je serais très embêté si je devais changer les cordes. D'ailleurs, heureusement, je demande toujours si le régisseur était musicien.
Oui.
Parce que moi, je ne suis pas musicien. J'ai du mal à changer une corde. Mais j'ai eu de la chance. Alors, la chance, elle s'arrête un jour. Hein. Donc, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai été gâté par les... Il y a un bon Dieu là-haut que je dois faire rire.
Ah, c'est possible.
Mais que je dois faire rire sur Terre. Pas là-haut, parce qu'il en a assez, peut-être.
Ah ouais, d'accord.
Alors, bon, mais si je peux apporter du bonheur comme ça aux gens, je trouve que c'est déjà pas mal. Il faut, la vie est suffisamment désagréable, triste et dangereuse. Quand on a l'occasion, pendant une heure et demie, de s'évader un petit peu, voilà.
Vous rendez hommage aussi à Raymond DeVos.
Ah, bah Raymond DeVos, c'est un modèle aussi, hein, Raymond DeVos. Donc, Raymond DeVos, c'est aussi un chercheur de mots.
Oui.
C'est de DeVos que j'ai tiré cette phrase. Des chercheurs de mots, des chercheurs, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Alors, c'est joli, hein, ces petits post-it orange
ouais.
Donc, qu'on fait passer. Brassens, une jolie fleur, avant-dernière pause. D'accord.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, en me laissant à l'âme un mal funeste, et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang, pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Oui, on parlait de de Brassens qui... Il avait une femme qui le faisait souffrir et c'est de là qu'est née la chanson oui. Une jolie fleur.
Oui. Et Brassens qui habitait pas très loin de, dans le quartier de la Porte d'Orléans, Montparnasse, là où...
Oui, parce que bah, quand il est chez la Jeanne, là, oui. Qui était avec son... Où soi-disant, d'après dans l'émission, c'était le ménage à trois. C'est-à-dire que le mari n'était pas du tout jaloux. Et... La femme à qui il doit tout, Brassens, c'est-à-dire la Jeanne.
Oui,
Alors, elle avait 30 ans de plus que lui, je crois, ou quelque chose comme ça. Il paraît que c'était sa maîtresse.
Ben oui, peut-être. Pourquoi pas, après tout. Hein.
Oui, absolument. Mmh. Donc, il lui doit tout, ça, ça c'est vrai. Il était reconnaissant, il lui a acheté une maison et tout à la fin.
Ah, vous disiez...
Et alors, elle, la femme de, je vous dis, parce que dans l'émission d'hier, j'en reviens pas, à la fin de sa vie... Son mari est décédé. Elle s'est remariée presque tout de suite. Hein. Elle a trouvé un mec. Elle était pas jeune du tout. Et elle est morte 3 mois après.
Ah oui, d'accord.
Trois mois après son mariage.
Allons bon.
Et on apprend tout ça dans l'émission que j'ai vue.
Sur
FR3. Ouais, c'est
vrai. Il faut regarder en replay, comme on dit.
Oui, tout à fait, oui. Mais il ne reste plus que 10 minutes, voyez-vous. Ça passe vite le temps. Hein, très, très vite. À la fin du spectacle, c'est vrai qu'on pourrait parler des heures, hein, on pourrait parler des heures, hein, parce que
sur mon métier, oui, sur autre chose, non.
Ouais.
Sur autre chose, non.
Oui, j'avais noté quelque chose, je sais plus parce que je l'ai marqué sur mon truc. Attendez, je vais vous le dire. J'ai trouvé dans le livre que vous n'étiez pas toujours très tendre avec vous-même. Hein.
Je dirais même plus, quand je me regarde, des fois, je me déteste. Quand je me donne un coup, si c'est dans un meuble, je donne un coup de poing dans le meuble, mais le meuble, il se fait pas mal, c'est à moi que je fais un bleu.
Voilà, il répond pas. Voilà. Mais... Alors, quand même, Popek, ça vient de Tchépek, c'est ça?
Oui. Ouais.
En polonais, qui veut dire violon grinçant.
Oui, un homme grinçant, un homme râleur, quoi.
Voilà. Et alors, dans le livre, vous dites « Je suis un petit roquet anxieux, caractériel ».
Oui, c'est vrai.
Ouais.
J'étais.
Ah.
Je ne suis plus maintenant.
Non.
Il y a un moment donné où on ne peut plus se permettre d'être un roquet. Parce que je vais vous dire, vous voyez, je prends des phrases... que j'apprends par cœur et je les garde, parce que c'est des références.
Ouais.
Si tu ne sais pas mordre, ne montre pas les dents.
Ah.
C'est extraordinaire, ça.
Oui, tout à fait, oui.
Et je ne sais plus mordre.
Ah bon ?
À l'âge que j'ai, je ne sais plus mordre.
Vous n'avez plus envie de mordre, si ?
Non, parce que si j'ai envie de mordre, je me retrouve pas... Je vais avoir une crise cardiaque, je vais avoir une...
Ah oui, d'accord. Vous êtes prudent, quand même.
Bien sûr. Oui. Je suis pas un type courageux, hein, attention, hein.
Ah, d'accord.
De quand j'étais jeune, j'étais un tir au flanc, ça m'a beaucoup servi, à l'armée et puis ailleurs. Étant gosse aussi, ça m'a servi d'être tir au flanc. Je pense que mon père devait être un peu tir au flanc aussi, et ce qu'il a peut-être sauvé de pas mal de situations, de ne pas se trouver dans les endroits où il ne faut pas se trouver au mauvais moment. C'est la chance aussi, ça. Et aussi le flair.
Le flair.
Le flair.
Oui. Vous étiez déjà un peu roublard, un peu, un petit peu.
Ouais. Hein? Oui, ça c'est sûr.
Oui, c'est sûr.
Roublard, c'est sûr. Oui, oui, ouais. Je tiens de ça de mon père. Je le dis d'ailleurs, je suis né d'origine polonaise, de Varsovie par ma mère, et roublard et roumain, et je voilà, dis d'Arès ça. Par mon père. Voilà. Voilà,
exactement. Mais votre père, il vous a, vous êtes allé dans des foyers, mais votre père était toujours présent, il venait toujours vous voir.
Toujours.
Et il a été très...
Oui, bah, il a été pour moi une mère, quoi. Voilà. Ça a été une mère, même si je ne le voyais pas souvent. Voir mon père, c'était comme avoir sa mère. Je, n'ayant pas connu de mère, je me raccrochais à mon père. Et mon père a eu une attitude maternelle. Quand j'étais à l'hôtel avec lui, je dormais, on avait un seul lit, un grand lit, donc je dormais avec mon père. Et je me souviens très bien que quand j'étais gosse, je parlais le roumain, et je disais toujours à mon père, « Croce, croce, papa. » Ça veut dire « gratte-moi dans le dos. »
Ah ouais.
Croce, croce, gratte-moi dans le dos. Ça m'endormait.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, oui. C'était vraiment de l'amour entre père et fils.
Ah oui, ah oui. Ah oui. Oui. De l'amour vache des fois, parce que je le raconte aussi, je crois, dans le livre. Au début de la guerre, il fallait tous porter un masque. On avait distribué des masques à gaz. Ah oui. Parce qu'on pensait que comme à la guerre de 14, il y aurait l'histoire des gaz.
Oui.
L'histoire des gaz asphyxiants. Alors, mon père, il avait mis un masque à gaz pour me... Et le gosse que j'étais, oh là là, j'étais effrayé.
Ah oui.
Alors, je lui ai dit con. Et mon père m'a dit, oh, c'est pas bien ce que t'as dit. T'as télé. Mais heureusement, t'as pas dit vieux con. J'ai dit, bah, vieux con. Alors, vieux con, je m'en souviens parce qu'il m'a mis sur le palier.
Ouais.
Et sur le palier, il y a une voisine qui est sortie. Oh, le bon petit garçon, qu'est-ce qu'il fait là? Il est tout timide. Viens avec moi, je vais te donner. Et puis elle m'a emmené. Elle avait une chambre aussi. C'était une veuve, sûrement. Mmh. Elle m'a donné un chocolat. Et mon père est sorti sur le palier, il ne me boit plus. Il frappe chez la voisine. Il me voit en train de boire un chocolat chez la voisine.
Ah ouais.
Voilà, c'est des mots dont on s'en souvient. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc, quand on peut mettre tout ça. En spectacle ou dans un livre et que ça intéresse les autres, c'est formidable.
Bah oui, oui, oui. Parce qu'en même temps, vous êtes Popek dans le spectacle, mais vous parlez quand même de on ne sait plus si c'est vous ou c'est Popek. En fait,
vous savez, Bourvil disait une chose à laquelle je me raccroche un petit peu. Ma chance, c'est qu'il y a en France des milliers de couillons comme moi. Mmh. Et que tout le monde pense que je suis le seul.
Ah ben voilà.
Je trouve que c'est drôle parce que Popek, c'est ça.
Ouais.
Il y a des centaines de râleurs. Moi, j'ai pris l'accent. J'aurais pris l'accent d'un Beauceron. L'histoire de mon ticket que je discute à la gare du Nord, c'est un Beauceron que j'ai vu faire ça. Mmh. Un Beauceron qui râlait comme ça. Mais je me suis dit, si je prends l'accent Beauceron, ça va pas. Mmh. Alors j'ai revêti avec mon accent. Et donc, j'ai pris tout le défaut des autres, mais ma chance, c'est que tout le monde pense que je suis. Des milliers de couillons comme ça, mais pense que je suis le seul à être comme ça.
Oui, oui, effectivement.
Chacun ne voit pas ses défauts, ne voit pas ses propres défauts.
Non, non, mais justement.
Il voit chez l'autre.
C'est peut-être pour ça qu'il vous apprécie, c'est de. Oui. C'est de se retrouver, mais sans le dire.
Oui, puis il y a les gens qui vont m'écouter. Il me rappelle machin, tu sais, un tel, il est exactement comme ça.
Oui, oui. Et c'est ce qu'on avait dit aussi au précédent spectacle de l'archipel. J'entendais les gens dans la salle. Oh, ben, si on va rire, c'est Popek, ça va être bien. Donc les gens sont heureux de toute façon.
Vous savez que c'est pas toujours ça. Au début, j'ai passé à l'échelle de Jacob et cherchais un chanteur. On cherchait un chanteur à. Dans une station de sport d'hiver. La patronne, elle était emmerdée parce qu'elle n'avait pas de chanteur. Elle dit, mais vous chantez, vous? Je dis, non, moi, non, je chante. Si, vous chantez. Alors, comme j'étais avec ma guitare, tout ça, elle m'a envoyé, elle m'a fait faire des affiches. Et là-bas, on voyait les affiches. Et il y a quelqu'un qui passe devant mon affiche, je me rappelle, j'ai vu, il dit, oh, c'est un chanteur, on va s'emmerder. Regarde la tête qu'il a, on va s'emmerder.
Ah, oh, d'accord. On va écouter le petit gros. C'est de Francis Blanche,
oui.
Et c'est interprété par son fils Jean-Marie.
Jean-Marie.
Allez, on y va. Le petit gros nous a bien fait rire. Le petit gros
nous a possédés. C'était l'heure où les gens n'ont plus rien à se dire. Alors lui, forcément, en a profité. Le petit gros, a dit des histoires, des charades, des devinettes, des contrepétries. Il a fait des jeux de mots et des bruits bizarres. Grâce à lui, le petit gros, on a drôlement ri. Tiens, et celle-là, vous la connaissez, dites ? Ami qui visite la Suisse, malheur à toi si tu confonds. Pour éviter la chaux de fond, il faut passer par Saint-Sulpice. Le petit gros mélangeait les thèmes, la magie de Bonto. Tout y a passé, tout à coup saisissant une tarte à la crème. Le petit gros a jonglé sans rien renverser. Un couplet de refrain, quatre ou cinq fausses notes, un chapeau, un roi de cœur, un foulard carré, quelques gros calembours, quelques anecdotes. Grâce à lui, le petit gros, on s'est bien marré. Ce n'est que vers 3 heures ou plus tard dans la nuit, quand le petit gros s'est levé pour retourner chez lui, en lançant de la porte un dernier mot drôle sur un ton ironique et presque moqueur, qu'on a vu le couteau entre ses épaules. Qu'on a vu le couteau planté dans son cœur. Tabadam, 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 tam, tam, tabadam, 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 babam, tabadam, 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 babam, tabadam, 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 tam, tam.
Ah oui, le, on a, en fait, on pourrait parler des heures. Hein, alors, oui, j'osais pas.
Non, on pourrait parler des heures, mais quand même pas gratuitement, parce que il y a des limites. Maintenant, tout le monde, on fait tout. J'arrête pas de faire des spectacles caritatifs, à titre caritatif.
Oui.
Alors, ça commence à bien faire, ça. Je crois que je vais m'arrêter un petit peu pour de ce côté-là aussi, parce que faut vivre, hein.
Ah bah oui, non non, bah on est bien d'accord. On a été quand même ému à la fin du spectacle parce que vous avez.
Ouais, mais je le redirai plus, je crois. Je vois ce que vous voulez dire.
Ouais.
Je le redirai plus parce que là, ça fait quand même. On est en plein dedans.
Ouais.
Et ça fait quand même. Alors je vais le dire une fois ici. Si
oui, dites-le, dites-le.
Vous savez, moi, je suis sociétaire à la Société des auteurs.
Oui.
Devant la Société des auteurs, il y a un bronze de Guillaume Apollinaire, où on voit un bonhomme sur le bronze, c'est Guillaume Apollinaire, qui tend les bras avec horreur, comme ça, et il y a gravé dans le marbre, quand on a vu la guerre de près, on ne peut que la haïr avec force. C'est ce que j'ai dit sur ça. Alors, j'ai dit, moi, j'ai eu la chance d'entendre la guerre, mais je ne l'ai pas vue de près. Mais par contre, dans mon enfance, j'ai vu et j'ai entendu la haine de près. Mmh. Alors je déclare qu'il faut déclarer la guerre à la haine, parce que c'est la haine qui amène la guerre.
Ah, c'est sûr.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, Joutka, ou M. Popek, ben c'est votre dernier mot.
C'est mon dernier mot pour eux. Oui, parce que vous me le faites redire ici, qu'effectivement, que je l'ai dit en scène, ça a touché tout le monde. Les gens restaient assis, ne voulaient pas sortir, ils applaudissaient, mais moi, je ne suis pas revenu sur scène. C'était... Et puis, mon ami personnel m'a dit, surtout, ne dis pas ça au début, parce que tu vas te scotcher le rire par la suite.
Oui, c'est vrai.
Dis-le à la fin, ne le dis pas au début.
Oui. Mais en même temps, cette parole était bienvenue.
Oui, parce que c'est tellement vrai, c'est tellement ça dans ce qu'on voit aujourd'hui. Et il y a une telle haine de part et d'autre que tout le monde veut se venger. Et je crains que en France, on est en train de prendre le même chemin. Parce que, je vais juste dire ça, lorsque vous arrivez à la haine comme ça, vous avez des partis extrémistes qui arrivent. Mm-hmm. Là, par exemple, en Israël, c'est l'extrême droite.
Oui.
Et je crains qu'en France, on va y courir aussi, parce que il y a une telle haine et une telle insécurité. Oui. Vous voyez tous les jours ce qui s'est passé avec les deux professeurs qui ont été massacrés,
oui,
assassinés. Mmh. Avec le premier, on n'a pas compris. Mmh. Il y en a eu un deuxième. Mmh. Il va y en avoir combien d'autres? Mmh. Alors tout ça pousse vers les extrêmes. Et il va se passer en France la même chose, c'est-à-dire que les gens, la France vieillit de plus en plus,
oui,
va avoir peur,
oui,
elle va se tourner vers l'autorité.
Oui.
Autorité d'abord,
oui,
et puis ensuite, pouvoir d'achat, parce que vous avez vu combien ça coûte pour les gens les plus pauvres, combien ça coûte Donc tout ça fait que, malheureusement, l'extrême, que ce soit l'extrême droite, là, j'en sais rien, on va le payer cher. Si une démocratie ne sait pas réagir et avoir l'autorité qu'il faut, je dis bien une démocratie. Si on veut rester une démocratie, il faut avoir de l'autorité. Oui. Il faut à un moment donné serrer les poings. Il faut à un moment donné, faut dire ce qui est. Il faut sévir. Mmh. Un récidiviste meurtrier et tout ça ne doit pas se retrouver dehors comme ça. Je veux dire, c'est pareil. C'est terrifiant pour les familles. Ce qui s'est passé au Bataclan n'a pas donné de leçons. On le croirait, ça existe encore dans le monde entier. Tout le monde peut avoir tort, tout le monde peut avoir raison, j'en sais rien, moi. Moi, je connais que mon métier, mais je dis que la haine mène à la guerre, c'est tout.
On est bien d'accord.
Et les gens, la France est un pays qui vieillit de plus en plus, les gens vont avoir peur, ils vont se retourner vers l'autorité.
Oui. Ouais. En tout cas, merci, Poupec, d'être venu à Radio Libertaire. Ça... C'est vraiment... ça nous touche beaucoup.
Eh bien, vous ne me devez rien. On n'est pas des sauvages.
Non, on n'est pas des sauvages.
On va faire la photo, là.
Ah, bah d'accord, d'accord.
T'as bien capté, Buvois, sur Libertaire. Radio Libertaire, on va parler de polar, du Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire,
t'as bien capté, bulle noire. Sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de Paula. Sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h.
Baby,
faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar, sur Libertaire,
Radio Libertaire. On parle de 38,
de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, c'est bien ces bulles noires qui commencent, hein, bulles noires en deux temps. Une première partie avec Béatrice Thirier et Jérôme Diamant-Berger. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Et Jérôme Diamant-Berger qui est juste à côté, qui est en train de s'installer. Évidemment qu'on passe juste après une star comme Monsieur Popek, c'est un peu difficile de se mettre en place, de s'installer. Monsieur Marc Villard arrive dans les studios, s'installe.